harcelé, mais là on n'est pas sur de l'harcèlement moral, mais qui a eu une emprise de l'un sur l'autre, où il y a des relations clairement délétères entre les parents qui ne permettent pas aux enfants de grandir sereinement. Et ça, maintenant, c'est un critère qui permet au juge des enfants d'intervenir. Et dans le cas de violence physique sur une mère, les enfants sont présents. Les enfants, maintenant, sont considérés comme victimes et cités comme partie civile à l'audience. Et le juge des enfants aussi peut avoir une intervention. Il est même aujourd'hui démontré qu'une femme victime de propos, d'insultes, d'être ridiculisée avec un enfant présent, ça a des conséquences sur le développement psychique des enfants.
Ils se sont en insécurité avec lui, ils ne se sont pas écoutés. Quand son père lui dit des méchancetés à mon propos, c'est terrible pour notre enfant à recevoir ces choses-là. Donc je me dis qu'en fait, ça sert à rien que moi je fasse la même chose. C'est pas constructif. Il voit bien en tout cas que son père est totalement instable. Donc l'instabilité, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, c'est quelque chose qui n'est pas rassurant pour notre enfant. Et le fait effectivement de ne pas se sentir important, c'est dur. Parce que son père fait absolument pas la démarche de le voir, de l'appeler, ça passe constamment par moi. Quand ça vient de lui, c'est tellement ponctuel que c'est presque risible. Pendant des années, ils ont dû se voir peut-être deux week-ends par an, parce qu'à un moment, son père se souvenait qu'il avait un gamin et puis que ce serait peut-être pas mal de passer du temps avec lui.
Repartons à écouter sur Radio HDR. Retrouvez les podcasts de Repartons sur Spotify et YouTube.
La seule manière pour qu'ils aient continué d'avoir des rapports avec leur père, c'est de planter trois coups de couteau dans le dos de leur mère. Et s'ils le font, ils auront prouvé leur loyauté auprès de leur père. C'est la seule manière. J'ai fait une main courante pour harcèlement. C'est 200 mails par jour, menaces de mort. À ce moment-là, mes enfants étaient sous sa coupe. Et ils m'ont dit, on ne te pardonnera jamais d'avoir porté plainte contre papa. Je sais aujourd'hui où sont positionnés mes enfants. Donc ça me rassure. Ils ont compris, ils se font aider, ils se font soutenir. Moi, j'avais fait une erreur. J'avais dit « Votre père est un pervers narcissique ». J'aurais pas dû le dire. Prononcer ce mot-là ne permettait pas à mes enfants de faire le chemin complet pour qu'ils le comprennent soit par eux-mêmes, soit par le biais d'un psy. Et en fait, mon soulagement est arrivé 3 ans après la séparation, quand un jour, le deuxième de mes enfants arrive chez moi et me dit « Maman, la psy a dit que papa était un pervers narcissique. Maintenant, je le sais ». Divisé pour mieux régner. Il a monté l'un de mes enfants contre l'autre de mes enfants. Les mensonges sont multiples. Ça leur fait de la peine. C'est leur père. Je leur ai dit, on divorce pas, non pas. Mais pour leur santé mentale, ils peuvent pas. Parce qu'il est broie. C'est un broyeur d'âme. Donc il y a deux idées majeures dans cette séparation. C'est, je suis folle. Il va falloir m'interner. Il va falloir recueillir des témoignages pour prouver que je suis folle, de manière à me faire interner. Donc tant que nous étions encore mariés par la loi, il avait cette capacité, ce pouvoir de pouvoir me faire interner à condition de réunir suffisamment de témoignages. Et témoignage ultime, ceux de ses enfants, enfin de nos enfants. Donc il a tenté tout ça. J'ai peur du mal qu'il fait à mes enfants. À moi, moi je crains plus rien. Mais il est encore en mesure de faire du mal à mes enfants.
Ce qui était plus difficile dans ma reconstruction après, c'est que quand on est parent d'un bébé, ça fait fuir. Donc les personnes que je pouvais rencontrer n'avaient pas du tout envie de s'engager dans une relation avec moi parce que j'étais jeune maman, jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un à qui ça n'a pas fait peur du tout. Et puis surtout que je ne cherchais pas un père pour mon enfant. Un père, il en a un. Il est ce qu'il est, mais c'est avec lui que je l'ai fait, cet enfant. À lui d'en assumer le rôle ou pas. Puis mon gamin se construit avec toutes les personnes autour et puis qui sont fidèles au poste, qui sont là depuis toujours. J'ai été suivi très vite par plein de thérapeutes. Puis ils m'ont vachement aidé sur ma reconstruction. Donc une personne ne fait pas l'autre. Fort heureusement, les personnes border, violentes, quelles qu'elles soient, elles courent pas les rues non plus. Puis il y a plein de personnes en souffrance qui peuvent parfois aussi avoir besoin d'être reconstruites. Et j'en fais partie. Et c'est pas parce que j'ai été en souffrance que je vais faire du mal consciemment. Mais je sais qu'à notre endroit, chacun peut commettre des erreurs. Mais en tout cas, la confiance confiance, elle s'est pas perdue, parce que je crois en l'être humain. Je préfère faire confiance, mais retirer mes billes si je vois que ça dérape, plutôt que de pas faire confiance et de louper une occasion d'être heureuse en rencontrant des gens, que ce soit de façon amicale ou amoureuse.
J'ai quelqu'un dans ma vie, arrivé, je pense, dans une relation après tout ça, c'est pas facile, parce que... Il y a bien une promesse que j'ai faite à l'enfant de 8 ans que j'étais, c'est qu'on ne m'y reprendra plus. Donc je laisse rien passer. Et je lui ai dit, je suis désolée, il n'y a rien, rien ne passera. Donc on peut se disputer pas mal, mais j'ai le droit de me disputer. Pendant plusieurs décennies, je n'ai pas eu le droit de me disputer. Là, j'ai le droit. Ça change. Et après, il y a des choses un peu étranges, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, on est fragile. On est fragile d'avant. Je suis quand même en quête de... qu'on me dise que je suis belle, que je suis intelligente, enfin, voilà, de ce fameux sucre, de ce fameux bonbon qui fait que nous tombons entre les griffes de ces hommes-là. Du coup, les règles de l'amour sont un peu biaisées. Il m'a biaisé les règles de l'amour. Être dans une relation, on peut dire, mais là, en fait, tu m'emmerdes. Jamais, sur plusieurs décennies, j'ai pu dire ça au père de mes enfants. Jamais. Je leur fais pas confiance. Il n'y a aucune confiance, y compris avec l'homme avec lequel je suis. Moi, j'ai confiance aux femmes. J'ai confiance en mes enfants, mais les hommes, je ne leur fais pas confiance. Je peux pas.
Ça m'a permis de mesurer la valeur que je pouvais avoir, de me réparer par rapport à ça et de me dire qu'effectivement, je suis quelqu'un de bien, avec mes failles, mais que je ne laisserai plus jamais personne me détruire de cette façon-là. Et ça m'a donné une certaine force. Je mets toujours du temps, je crois, à me détacher de certaines personnes parce que je reste convaincu qu'on ne naît pas mauvais, qu'on le devient. Ça vient pas de nulle part. Mais si j'ai réussi à me sortir de cette relation, j'ai réussi aussi à me sortir d'autres relations, même professionnelles, toxiques. Donc quelque part, même si je peux mettre un peu de temps avant de voir les choses, n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, ma priorité, en dehors de mon enfant, c'est moi. Je crois que la force, c'est vraiment la chose que j'ai découverte. Je savais pas que j'étais aussi forte, parce que dans les épreuves de la vie, être capable de se relever, peu importe le temps qu'on met, c'est une super force. Donc continuer à faire confiance, continuer d'aimer, continuer de se dire qu'en fait, même dans les épreuves les plus compliquées de notre vie, il y a forcément de la lumière au bout du tunnel. Je crois que c'est ça que ça m'a appris. Maintenant, j'ai bien compris les mécanismes de l'emprise. C'est pas de l'amour.
Parlez à votre meilleure amie, parlez à vos proches. Il existe des associations vers lesquelles vous pouvez vous tourner. Il y a des avocats également qui peuvent faire preuve de professionnalisme, d'empathie, qui peuvent les aider. Qu'aujourd'hui, à la fois dans le cercle familial, amical, associatif, professionnel, on peut trouver des gens qui aident ces femmes-là.
J'aurais envie de dire, faites-vous confiance, parce que si vous sentez qu'il y a quelque chose qui déconne, c'est qu'il y a quelque chose qui déconne. Puis n'ayez pas peur de partir, il y a un adage qui dit qu'on est mieux seul que mal accompagné, mais c'est vrai. Partez, il y aura toujours du monde pour vous tendre les bras, il y aura toujours des portes qui vont s'ouvrir. Faut commencer par céder soi pour aider les autres.
Alors déjà, il vaut jamais mieux mourir, ça c'est sûr. Une vie existe après, et une belle vie existe après. Quel que soit l'âge que nous ayons, il y a derrière une jolie porte. Personne ne mérite de vivre ça. Il faut partir, et partir sans négocier. Vous perdrez à toute négociation, donc ça sert à rien. Il faut juste sauver sa peau, et la sauver de la plus belle des manières qui soient. Mais le conseil, c'est de se préparer. Dans la mesure du possible, se rapprocher d'associations, d'amis, avoir un soutien sur lequel on puisse s'accrocher, parce qu'on va partir sans rien, on va partir vite. Une fois qu'on a dit qu'on partait, il faut partir. Ça se prépare, il faut ouvrir un compte en banque. Vraiment, parce qu'il va tout bloquer. Moi, c'est la première chose qu'il a fait, hein. Bloquer tous les comptes, hein, avec mon argent. Il m'a volé aussi. Hein. Donc, il va vous voler. Avoir une amie sécure, peut-être qu'il ne connaît pas trop, sur lesquelles vous allez pouvoir avoir 4, 5, 10 jours sur lesquels vous allez pouvoir vous rassénérer, vous poser, ouvrir les choses et tout de suite prendre un avocat ou une avocate. Tout de suite avoir ces activités-là et ne jamais accepter une rencontre sans un tiers. Jamais, 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 jamais. Ne prenez pas la voiture avec lui. Ne vous mettez pas en situation de risque. Vous avez vu tout le long, vous n'êtes pas dupe. Tout le long de votre parcours avec lui, vous avez vu ce dont il était capable. Faut fuir et faut pas se retourner. Et je sais que c'est pas facile. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, il y a le moment. Il aura à cœur de vous récupérer, il réussira si vous êtes suffisamment faible pour cela. Il vaut mieux partir quand on est en force, mais il faut partir avant d'être exsangue. Puisqu'il a sucé tout le sang, s'il n'y a plus de sang, vous n'avez plus les capacités de partir. Donc faut partir avant. C'est ça qui est difficile. Écoutez vos amis, Alors parce que aussi on a des déclics, moi tout ça c'est pas arrivé moi toute seule, c'est aussi à un moment donné bien plus tard dans la relation où j'ai des gens qui me disent mais personne ne fait ça en vrai, tu ne devrais pas avoir à supporter cela, entendez ces petites voix, les voix elles sont là, elles sont autour de vous, elles vous parlent, une voisine, une amie, la maîtresse d'école, peu importe qui vous côtoyez, ce sont les pire des vampires. Vous avez le droit de ne pas avoir le courage de partir, parce qu'il en faut beaucoup. Mais quand vous l'aurez, partez. Et promis, une jolie vie existe. Parce que même s'il continue à vous emmerder, ce type, même si vous avez peur, j'ai été admirablement accueilli. Si vous portez plainte ou si vous faites une main courante, la gendarmerie Saint-Sever, il ne faut pas y aller. Je suis arrivée avec un dossier de 300 messages par jour et je voulais déposer une main courante pour harcèlement. Au guichet, il m'a dit, si vous avez répondu une fois, c'est que vous êtes d'accord pour discuter avec lui, madame. Donc je suis repartie en larmes. Je suis allée à la gendarmerie de Bois-Guillaume. Elle m'a accueillie pendant 3 heures. Elle a été exceptionnelle. Elle l'a appelée. Elle lui a dit, monsieur, je vais vous condamner. Et il a dit, non, c'est moi qui suis la victime. Et elle lui a dit, monsieur, mon bureau est ouvert jusqu'à 20h. Je vous attends avec autant de documents que madame. Elle a été formidable. Donc il y a des endroits où on peut être entendu, écouté. Elle lui a fait peur. C'est des pleutres. Sachez-le, mesdames. Je vous jure, c'est des pleutres. C'est des pleutres. Sortis de vous, sortis du sang qu'ils vous pompent, le reste, ils sont pas courageux. Donc plus on est entouré, plus on est aidé, plus on est soutenu avec une asso, avec une gendarme, avec une avocate, avec des amis, c'est merveilleux si on a des amis, une famille extraordinaire si on l'a, mais il n'y a pas que tout ça, juste pas être toute seule, juste ça, et partez, vous allez voir, j'ai une vie extraordinaire. C'est des pleutres, sachez-le mesdames, je vous jure c'est des pleutres, c'est des pleutres.
Je tiens à remercier tout particulièrement le docteur Mambray qui m'a fait l'amitié de témoigner pour cette émission en me demandant de bien préciser qu'il n'est pas spécialiste. Je remercie également maître Karoubi Suganas ainsi que Marie et Anna qui m'ont donné leur confiance pour ce témoignage. Chers auditeurs, je vous remercie pour votre écoute. C'était la dernière émission de la saison. Je vous propose de nous retrouver dès la rentrée. En attendant, bonnes vacances et bonne écoute sur nos ondes.
Repartons à écouter sur Radio HDR. Retrouvez les podcasts de Repartons sur Spotify et YouTube.
Le mix de toutes les cultures, c'est sur le 99.1. You got a smile so bright. You know you could have been a candle. I'm holding you so tight. You know.